Nous recevons ce soir le professeur Bernard Lax. Bernard Lax est docteur en sciences du langage. Il est professeur de sciences du langage à l'université de Paris 10 Nanterre. Il dirige deux laboratoires au CNRS, un laboratoire intitulé Phonologie, un autre consacré au langage et connexionnisme. Vous pouvez retrouver deux de ses ouvrages chez Hermès, paru en 96, un livre qui s'appelle « Langage et cognition, l'approche connexionniste » et enfin un deuxième livre paru au CNRS en 97 qui s'intitule « Phonologie autosegmentale, l'accentuation ». Je précise que la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Phonologie et cognition » et qu'elle s'inscrit dans un module thématique intitulé « Les signes et le sens ». Je vous remercie.
Je vous remercie. Alors, je vais donc vous parler ce soir de phonologie et cognition, et plus exactement de phonologie cognitive. Et pour introduire mon propos, je dirais simplement que la phonologie est la science qui prend pour objet l'organisation de la dimension sonore du langage. Cette définition semble une définition très simple. En fait, il y a beaucoup de façons d'aborder la dimension sonore du langage. Et d'un certain point de vue, je vais m'employer ce soir essentiellement à donner un peu de sens, autant que faire se peut, à cette définition, en tentant de vous montrer pourquoi une certaine façon de traiter la dimension sonore du langage peut s'appeler phonologie et pourquoi cette phonologie, telle que je l'entends au moins, est essentiellement une science de la cognition et du fonctionnement mental. Comme point de départ, on peut partir d'une constatation extrêmement simple qui concerne la communication. Si on s'intéresse à la communication, un circuit de communication, on peut dire que les choses sont d'une grande simplicité. Un locuteur A émet un certain signal sonore, un certain message. Ce message est réceptionné par un locuteur B. Ce locuteur B reçoit l'information. C'est donc un système extrêmement simple, en apparence. Simplement, quand on s'intéresse à ce circuit de façon un peu plus précise, on voit immédiatement qu'un grand nombre de problèmes sont posés et que les choses sont beaucoup moins simples que ce qu'on pourrait penser a priori ou à première vue quand on s'intéresse à la communication. De quoi s'agit-il ? Lorsqu'on a un réseau de communication, un locuteur A, un locuteur B, en fait, dans ce réseau de communication, tout commence au niveau mental par le fait que le locuteur A va se trouver dans un certain état mental. Un certain état mental dans lequel, état mental, il va former ce qu'on appelle techniquement un projet intentionnel, il va avoir une intention de communication. Cette intention de communication est donc un objet totalement psychique. Cette intention de communication, par exemple ici, vise simplement à saluer, relativement poliment, le locuteur B. Qu'est-ce que ça veut dire saluer poliment le locuteur B ? Eh bien, ça signifie mettre le locuteur B lui-même dans un certain état mental. Avoir une action sur son psychisme, sur son encéphale, sur son cerveau, de sorte qu'il se trouve dans une nouvelle situation, celle d'avoir été salué poliment par le locuteur A. En fait, la communication, si on l'examine à partir de ce schéma et en fonction de ce que je viens de dire, c'est essentiellement, on pourrait la résumer de cette façon, l'action d'un cerveau sur un autre cerveau, une action intentionnelle, le projet que forme un encéphale d'avoir une action sur un autre encéphale. Vous voyez immédiatement que si on prend cette définition, on est confronté à un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que les cerveaux sont des objets physiques, certes, mais qui ne peuvent pas échanger directement leurs états mentaux. En d'autres termes, le problème qui va être posé, c'est comment cet état mental du locuteur A va-t-il pouvoir avoir une action sur l'état mental du locuteur B ? Comment ces cerveaux vont-ils finir par communiquer et échanger de l'information ? Et d'une certaine façon, on pourrait dire que l'évolution a résolu ce paradoxe en mettant au point un système tout à fait particulier qui est le langage articulé. Le langage articulé, c'est le média qui va permettre à ces deux cerveaux de communiquer et d'échanger quelque chose qui est complètement interne à chacune des boîtes crâniennes, à savoir leur état mental, leur état informationnel. Comment est-ce que ça va se passer ? On va donc partir du sujet parlant A. Ce sujet parlant A va donc d'abord avoir un certain projet intentionnel. Et ce projet intentionnel, il va le traduire dans un certain état conceptuel. Cet état conceptuel, lui-même, va être codé, toujours au niveau mental, par le locuteur A, sous forme d'un ensemble de signes. Ces signes, dans la théorie linguistique, ont un intérêt tout à fait important, c'est qu'ils ont deux faces. Ce sont des entités, comme on dit, bifaces, telles que la face conceptuelle appelle directement une image sonore et que l'image sonore appelle directement cette face conceptuelle. On va donc passer à ce codage qui reste complètement au niveau mental et qui est un codage de signes linguistiques. On va pouvoir alors passer du concept à une image acoustique. Cette image acoustique va alors subir un traitement à nouveau neurophysiologique qui va faire passer cette image acoustique au niveau du pilotage neuromusculaire. Jusqu'au point neurophysiologique ici, nous sommes toujours dans le cerveau du locuteur A, c'est-à-dire nous sommes toujours confrontés à un phénomène de nature cognitive et de nature mentale, y compris, je le souligne ici, le pilotage neurophysiologique. Ce pilotage va définir en gros des cibles articulatoires, des cibles musculaires, qui vont permettre de mettre en branle un système relativement complexe, musculaire et respiratoire, avec une commande des muscles, d'abord du diaphragme, puis du flux pulmonaire, de l'angle maxillaire, une commande de l'ensemble du système lingual, une commande du système labial, pour atteindre ces cibles acoustiques qui ont été codées. Et c'est seulement au moment de l'effectuation, c'est-à-dire au moment où ce codage passé par le pilotage neurophysiologique va finalement déclencher les muscles en question, que nous allons avoir du son et que nous allons avoir de la phonation. C'est seulement à ce moment que nous sommes à l'extérieur du système cognitif et que nous rentrons dans le monde physique réel, celui du son. Et ce signal acoustique va transiter simplement parce que les ondes acoustiques ont des propriétés qui leur permettent de se répandre dans une masse gazeuse, va transiter et être réceptionné par un appareillage physique également, qui est un appareillage de réception. Vous voyez ici que les seuls éléments extérieurs sont les éléments que j'ai notés ici en bleu, à savoir la phonation et la réception. Dès que la réception a eu lieu, vous avez au niveau de l'oreille interne un traitement qui va avoir lieu. Ce traitement est lui-même un traitement psychoacoustique, donc un traitement mental. Tout ce qui est derrière la cochlée, tout ce qui est le traitement post-cochléaire, va permettre de remonter, de reconstruire ces images acoustiques pour remonter aux signes qui ont été produits et de l'image acoustique remonter vers les concepts que ces images acoustiques supportent. Et enfin, on aura donc ici un décodage et une perception du message. Vous remarquerez que dans cette approche, il est déterminant que les deux locuteurs possèdent le même système de codage et de décodage. Qu'au moins au niveau fonctionnel, les fonctionnalités cognitives du locuteur A et les fonctionnalités cognitives du locuteur B soient sensiblement les mêmes pour que la communication fonctionne. Pour le dire de façon beaucoup plus triviale, il faut que le locuteur A et le locuteur B parlent la même langue. Encore faudrait-il pouvoir préciser ce que signifie parler la même langue. C'est la raison pour laquelle je prends ici un vocabulaire un peu plus précis en parlant de fonctionnalités cognitives sensiblement équivalentes chez A et chez B. On voit donc dans ce schéma de communication que l'essentiel de l'opération de communication a lieu au niveau psychique, au niveau mental et au niveau cognitif. Et en première approximation, je dirais que c'est la raison pour laquelle la phonologie choisit de prendre pour objet ces réalités cognitives-là. C'est la raison pour laquelle on peut l'intituler phonologie cognitive. Comment ce circuit de communication peut-il être abordé? On a vu qu'il y a deux grands moments de la communication. Un moment cognitif et mental, un moment externe de type physique, l'échange d'ondes sonores et leur réception. Et en fait, sur ce circuit, traditionnellement, les sciences du langage ont adopté deux types de points de vue extrêmement différents. Un premier point de vue qui s'intéresse fondamentalement à ce qui se passe à l'extérieur. Ce point de vue, c'est le point de vue de la phonétique physique, de la phonétique acoustique, de la phonétique articulatoire, qui va essentiellement s'intéresser à la façon dont ces ondes sont produites au niveau musculaire, à la façon dont elles se diffusent dans l'espace ambiant, à la façon dont elles sont réceptionnées. La phonologie, elle, prend un autre point de vue, un point de vue interne, et elle s'intéresse non pas à ce qui se passe à l'extérieur du système, mais bien à ce qui se passe à l'intérieur du système. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se passe à l'extérieur du système est relativement inerte. Les lois de la physique nous expliquent très très bien comment ces ondes vont se propager. Elles ne peuvent pas nous expliquer pourquoi ces ondes ont une signification. Et pour ce faire, il faut se placer sur le terrain de la langue, comme disait le grand linguiste Ferdinand de Saussure, et d'une certaine façon, donc, se placer sur le terrain du fonctionnement cognitif. Et la thèse que défend donc la phonologie cognitive, mais avec elle toutes les approches de la phonologie, c'est que la communication humaine est en quelque sorte sous-déterminée par le signal acoustique, par les propriétés physiques du signal, et totalement surdéterminée par les processus cognitifs de fabrication et d'interprétation de ce signal. Pour comprendre cette surdétermination, je prendrai un premier exemple qui concerne la variation inter- et intralocuteur. Si j'arrive à cadrer mon transparent. Quelle est l'idée ? L'idée est une idée extrêmement simple. Si on prend un signal quelconque, l'idée globale, c'est que les propriétés physiques du signal varient de façon extrêmement importante de locuteur à locuteur et varient même pour le même locuteur. Prenons un message extrêmement simple. Bonjour, comment allez-vous ? Bien. Si on analyse les propriétés physiques externes de ce message, on va immédiatement être confronté a une très très grande variabilité. Voici le même message répété trois fois par trois locuteurs différents. Ici, vous avez un homme, adulte, pas grand-chose. Voilà, c'est un peu mieux. Ici, vous avez un homme adulte. Ici, vous avez une femme adulte. Et à côté, on va le voir tout à l'heure, vous avez une fillette de 15 ans. Il s'agit donc exactement du même message, qui a le même contenu informatif et qui sera, par chacun d'entre nous, locuteur du français, décodé de la même façon. Vous apercevez immédiatement que, si l'on regarde les propriétés physiques du signal. Ici, vous avez une analyse, vous avez quatre analyses. La première, c'est une analyse de l'enveloppe énergétique du signal. La deuxième analyse, la deuxième courbe ici, c'est la courbe de sonorité. C'est la courbe d'intensité, pardon. Ici, c'est l'intensité du signal. Ici, vous avez l'intonation. Et ici, vous avez une analyse spectrale qui extrait de ce signal ce qu'on appelle les harmoniques, c'est-à-dire les propriétés de ce signal sonore. Sans rentrer dans les détails, ce qui m'intéresse ici, c'est simplement de souligner que pour ce même message, vous n'avez pas d'identité du signal physique. Pour chacune de ces trois occurrences, les quatre analyses proposées sont extrêmement différentes. Les courbes ne se recouvrent absolument pas et les différences sont tout à fait considérables. À quoi cela nous conduit-il ? Cela nous conduit immédiatement à souligner que le signal physique lui-même est en quelque sorte une performance personnelle. Chaque locuteur fait une performance. Cette performance est bien sûr liée aux propriétés du locuteur, notamment à la qualité de sa voix, aux propriétés particulières de sa voix. Les propriétés de la voix sont liées à la longueur des cordes vocales et à un ensemble de facteurs personnels. En d'autres termes, il y a là une sorte de signature vocale qui est propre à chaque individu. Et chaque individu a donc une voix très dissemblable de celle d'un autre individu. Comment, à partir de ces différences, pouvons-nous reconstituer l'identité du message ? Voilà ce qu'il faut expliquer. En d'autres termes, il faut expliquer comment notre système cognitif va filtrer la réalité sonore du message pour extraire de cette réalité sonore des propriétés en tout petit nombre, qui vont être des propriétés invariantes de locuteur à locuteur. Comment notre système cognitif va donc, entre ce signal et ce signal, reconstituer le même message ? La situation est encore plus compliquée si on prend en considération maintenant un seul locuteur. Si on prend en considération un seul locuteur, on va tomber sur la même variabilité. Voici un message prononcé par un locuteur adulte qui est « La tarte à l'ananas de papa qui a le repas de gala ». Ce qu'on appelle une phrase équilibrée, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a 11 occurrences de « A ». 11 occurrences de ce que chacun d'entre vous reconnaissez comme des « A ». Parce que vous parlez français. Or, si je regarde ce signal, mais surtout si je regarde l'analyse spectrale qui est faite ici, je m'aperçois que je n'ai pas d'identité forte de ces 11 occurrences de A. En d'autres termes, je n'ai pas 11 fois le même morceau de signal correspondant 11 fois au même A. On a donc une très grande variabilité intralocuteur. Le même locuteur ne produira jamais exactement deux fois le même signal pour le même message. Par exemple, ici, une des choses extrêmement importantes, c'est la longueur de chacun de ces A, qui est extrêmement variable, en fait, puisque cette longueur varie ici de 49 à 141 millisecondes. Donc, vous voyez que ces 11 occurrences de A sont en fait très différentes. Et pourtant, chacun de vos systèmes cognitifs va reconnaître le même A et donc va, en quelque sorte, neutraliser cette différence de longueur. En tout cas, pour les locuteurs du français aujourd'hui, il y a quelques générations, la longueur restait quelque chose qui était cognitivement et linguistiquement pertinent en français. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et donc, en tout état de cause, on va avoir un filtrage cognitif. Et ce filtrage cognitif va extraire des paramètres invariants qui vont lui permettre de reconstruire, donc, à partir de signaux extrêmement différents, une même identité de message, c'est-à-dire une même image acoustique. Ce travail de réception mobilise un ensemble de savoirs extrêmement importants et de compétences extrêmement importantes, ce qu'on appelle les compétences de haut niveau. En fait, toutes les compétences linguistiques sont ici mobilisées et tout votre savoir est ici mobilisé, notamment des connaissances culturelles, pragmatiques et sémantiques. Par exemple, pour obtenir sur ce signal la tarte à l'ananas de papa, qui est le repas de gala, et non pas une autre analyse compatible avec le même signal, qui serait, par exemple, la tarte à l'ananas, j'ai dû noter ça quelque part, mais je n'arrive plus à... Ah, c'est un peu plus bas. La tarte à l'ananas de papa, la recette, l'ananas, pourquoi pas. Si vous êtes dans un contexte pragmatique et sémantique où ceci est en jeu, alors sur le même signal, vous ferez ce découpage. Donc vous voyez qu'il y a ici des savoirs, des connaissances, des compétences cognitives de très très haut niveau qui permettent, qui vous permettent en fait de reconstruire à partir de, à la fois de cette richesse du signal acoustique, mais cette richesse excessive du signal acoustique, quelque chose de beaucoup plus simple qui est en fait le message. On va donc avoir un filtrage cognitif. On va avoir l'extraction d'un petit nombre de paramètres invariants et la reconstruction de quelque chose qui va être neutre du point de vue de la variation inter- et intralocuteur. Cette neutralité, c'est le système de la langue qui nous permet justement de communiquer, qui l'a produit. Lorsque vous choisissez finalement d'ignorer les différences de longueur, mais également les différences de timbre de mes fameux A, là, de mes fameux 11 A de cette phrase équilibrée, vous faites un travail d'abstraction. Vous construisez ce qu'on appelle des classes d'équivalence, c'est-à-dire vous considérez qu'il y a un certain nombre de différences qui ne font pas de différence. Cette construction de classes d'équivalence est une opération mentale. Ces classes d'équivalence qui vous amènent donc à reconnaître pour identique un certain nombre de données qui sont pourtant différentes et pour différentes un certain nombre de données qui sont également différentes, ce travail cognitif, c'est précisément le travail phonologique. Ces classes d'équivalence qui donc reconstruisent à partir de sons physiquement différents des unités fonctionnelles équivalentes du point de vue de la communication, c'est ce que les phonologues appellent des phonèmes. Les phonèmes sont donc des entités abstraites qui ont une réalité essentiellement mentale, et dans le système de la langue, ces classes d'équivalence jouent un rôle essentiellement distinctif et oppositif, c'est-à-dire que ces phonèmes s'opposent et permettent donc de différencier des paires minimales. Pourquoi y a-t-il une classe de type A, de type I, de type O et de type U? Tout simplement parce qu'en français, les locuteurs du français font une différence entre papa, papi, papo et papou. Au contraire, les locuteurs du français ne font pas de différence entre toutes les articulations possibles de A et construisent une même classe parce qu'il n'y a pas de changement de sens lié à ces différences de son. Bien, deuxième grande question qu'on a pu voir également dans le transparent précédent, le signal est un signal continu. Or, quand vous entendez la tarte à l'ananas de papa, vous entendez une succession de mots. Si vous regardez précisément les courbes en question, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de solution de continuité. Ou plus exactement, que ces solutions de continuité ne recouvrent pas la limite des mots. En d'autres termes, la deuxième chose que fait le système cognitif, c'est qu'il découpe, qu'il segmente, qu'il trouve des solutions de continuité pertinentes là où dans le signal, il n'y en a pas, évidemment. Lorsque je parle, mon flow est absolument continu. Et c'est votre système mental qui permet, dans ce flot continu, de retrouver l'identité des mots, de retrouver les frontières de mots. Cette expérience, vous l'avez immédiatement lorsque vous entendez une langue que vous ne connaissez pas, où ce que vous percevez, c'est le signal physique, et dans ce signal physique, vous ne pouvez plus percevoir ni les frontières de mots, ni a fortiori la réitération du même mot, puisque vous ne percevez que le signal physique et que vous n'avez pas le système cognitif de segmentation. Donc la deuxième chose extrêmement importante que fait le système cognitif, c'est qu'il segmente, qu'il découpe ce signal. De façon intéressante, on peut faire ici un parallèle avec l'écriture. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une écriture ? Et qu'est-ce que c'est que l'invention de l'écriture ? L'invention de l'écriture, c'est fondamentalement la mise en œuvre des mêmes fonctionnalités mentales, à savoir, premièrement, une catégorisation de choses différentes qui vont être tenues pour équivalentes. La construction de classes d'équivalence de sons pour lesquelles on donnera un signe arbitraire. En fait, l'invention de l'écriture met en jeu des fonctionnalités qui sont très très proches des fonctionnalités mentales dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de ce point de vue, on peut dire et on peut défendre la thèse selon laquelle la phonologie cognitive s'intéresse précisément à ce qu'on pourrait appeler les écritures mentales, c'est-à-dire à la façon dont, neutralisant les différences intralocuteurs et les différences interlocuteurs, segmentant de façon linguistiquement pertinente et physiquement quelque peu sous-déterminée ce signal, elle va produire une représentation mentale. Cette représentation mentale est une écriture stable de locuteur à locuteur. Bien, le deuxième point que je voulais aborder ce soir, et qui est tout à fait lié à ce que je viens de mettre en place, concerne l'universalité et la diversité linguistique. Si l'on parle d'un système cognitif, on est immédiatement confronté à deux choses. Le fait que les langues humaines soient extrêmement différentes les unes des autres, et que pourtant, elles sont des systèmes maîtrisés par la même espèce, avec le même système cognitif. Elles sont en fait extraordinairement différentes et extraordinairement semblables. Et il faut rendre compte à la fois de cette différence, de cette diversité linguistique, et de la très grande unité que forment les systèmes linguistiques. Et pour cela, de façon relativement contemporaine, on utilise un cadre théorique qu'on appelle principes et paramètres. L'idée est la suivante. L'espèce humaine est équipée d'un stock universel d'éléments, de substances et de formes. En gros, en fonction de notre appareil articulatoire, d'une part, en fonction de nos propriétés cognitives, de nos fonctionnalités cognitives, d'autre part, nous avons à notre disposition un stock à la fois d'éléments de substances sonores et d'éléments qui permettent d'organiser cette substance sonore. Bien évidemment, aucune langue humaine n'exploite l'ensemble de ces possibilités. Et on a affaire, en fait, à une spécification qu'on appelle une paramétrisation locale, c'est-à-dire que chaque langue va puiser dans ce stock universel un certain nombre, un tout petit nombre, en fait, de principes dont elle va faire le support de son système de communication. De cette façon, nous pouvons à la fois réconcilier l'unité de l'espèce humaine du point de vue cognitif et la diversité des langues. Alors, cette sélection d'un tout petit nombre est liée à deux grands problèmes. Le fait d'abord qu'il y ait un certain nombre de choix qui sont exclusifs. Toutes les langues humaines, tous les êtres humains peuvent distinguer des timbres, peuvent distinguer de l'intensité, peuvent distinguer de la hauteur musicale, peuvent distinguer de la longueur. Bien. Aucune langue humaine n'utilise l'ensemble de ces possibilités simultanément. Parce qu'un certain nombre, du point de vue physique, ça serait un petit peu long de le montrer ici, de ces choix sont exclusifs. Deuxièmement, parce qu'on a un rendement fonctionnel très important, chacune de ces possibilités est fonctionnellement extrêmement efficace, et donc un tout petit nombre de ces possibilités suffit pour construire un système extrêmement robuste et extrêmement performant. Chaque langue va donc sélectionner un petit nombre de possibilités et les adapter de façon paramétrique pour construire un système. Vous remarquerez que ceci permet également, cette approche permet également de dire deux choses. Ce stock universel, puisqu'il est à la disposition de l'espèce, on peut penser qu'il est génétiquement conditionné, qu'il est inscrit dans les gènes de l'espèce. Comment ? Là, le débat reste ouvert entre plusieurs approches, soit sous forme de représentation initiale, c'est-à-dire que nous aurions génétiquement conditionné des représentations mentales qui, en tant que telles, seraient à notre disposition, soit dans une approche un peu plus neurophysiologique, sous forme d'un câblage neuronal qui nous donnerait au départ un certain nombre de possibilités. Par contre, le choix paramétrique, lui, est entièrement local, lié à telle ou telle langue. Il doit donc faire l'objet d'un apprentissage, parce que nous allons le voir, ce choix est tout à fait arbitraire. En d'autres termes, chaque être humain est cognitivement prédisposé à apprendre n'importe quelle langue. Et pourtant, il n'apprendra que la langue à laquelle il est confronté. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que apprendre une langue, c'est en quelque sorte paramétrer ce stock universel, c'est-à-dire éliminer un certain nombre de possibilités, de potentialités que nous avons et qui n'ont pas d'application dans la langue que nous apprenons. Ce qui explique d'ailleurs, par ailleurs, pourquoi la capacité d'apprentissage des langues se tarit extrêmement vite avec le temps, parce que ces possibilités ont été finalement éliminées pour ne retenir que celles qui sont pertinentes. Je vais prendre un premier exemple assez simple qui concerne l'espace vocalique. De façon universelle, l'espace vocalique que les êtres humains sont capables de produire et de percevoir est extrêmement grand. L'espace vocalique, c'est l'espace des voyelles. Donc on peut percevoir et fabriquer un très très grand nombre de voyelles différentes. Pourtant, les langues utilisent très peu de possibilités. Le français, une dizaine de voyelles, selon les analyses. Si vous prenez l'arabe classique, par exemple, l'arabe classique ne connaît que trois voyelles, c'est un système très connu, c'est le système IAU. Trois voyelles avec une différence de longueur, si on veut, ça fait six, mais il y a trois timbres, plus des longues et des brèves. Bien, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'espace sonore de l'ensemble des voyelles va se trouver catégorisé, segmenté, en classes d'équivalence abstraites, et que ces classes vont se recouvrir, bien entendu, d'une langue à l'autre. Ce découpage de l'espace en un petit nombre de catégories abstraites, chaque langue le fait de façon arbitraire. Prenons un premier exemple, qui concerne le japonais et le français. Tous les êtres humains sont capables de reconnaître des différences tonales. Différences tonales, différences de hauteur de la voix. D'accord ? Et de les produire. Le seul problème, c'est que ces différences tonales en japonais sont fonctionnelles et que donc, elles vont faire l'objet d'un monitoring linguistique, c'est-à-dire d'un monitoring cognitif, alors qu'en français, on peut tout à fait les produire et on doit les produire, sinon on parlerait de façon absolument rectotono comme font les ordinateurs et ça serait absolument épouvantable. Mais moi, je n'arrive pas à le faire. Mais ces propriétés tonales vont être filtrées. En français, vous pouvez avoir la phrase 4 avec, j'ai noté ici, un ton haut avec H et un ton bas avec B. As-tu vu le coucou ? Ce n'est pas un coucou. Où est le coucou ? Montant, descendant, descendant, montant, etc. En français, il s'agit toujours du même oiseau. On en déduit que ces propriétés tonales qui sont présentes dans le signal, et je vous fais remarquer que quand je parle, je fais des tas de courbes tonales, sont entièrement filtrées et n'ont aucun effet sur le décodage de ce message, tout simplement parce que le français choisit de ne pas rendre ses propriétés fonctionnelles. Et donc, cognitivement, vous les filtrez pour ce qui concerne la reconstruction cognitive du message. Considérez maintenant le japonais. Alors, en japonais, tout au contraire, vous voyez que ces mêmes propriétés tonales vont avoir un rôle fonctionnel extrêmement important, puisque compte tenu du contour tonal, le même mot en apparence a des significations totalement différentes. Vous avez ici pour trois contours tonaux différents, trois mots différents. Très bien, on dira donc que le français choisit arbitrairement de considérer les propriétés tonales comme non fonctionnelles, et donc il n'y a pas de monitoring cognitif des propriétés tonales, en tout cas pour ce qui concerne cette phonologie segmentale. Il y en a sans doute du point de vue sémantique, mais c'est un autre problème. Alors que le japonais, lui, en fait une caractéristique fondamentale de la structuration du message sonore. Regardons maintenant une autre différence qui concerne deux sons, R et L. La première est une vibrante apicale ou laryngale, la deuxième est une alvéolaire. Ce sont deux sons qui sont très très différents du point de vue articulatoire et du point de vue acoustique. Le français choisit de considérer ces deux sons comme constituant des classes d'équivalence différentes. Comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce qu'il y a une différence entre une barre et une balle, une mare et une malle, un quart et un cal. J'en déduis que la différence entre R et L est en français totalement fonctionnelle et qu'elle doit être maîtrisée par le locuteur pour faire support d'une communication. Il est bien connu que le japonais fait exactement l'inverse. Le japonais construit à partir de R et de L une seule classe d'équivalence. En d'autres termes, si vous prenez Tsuru et Tsulu, sous réserve d'avoir le même patron tonal, il s'agit du même mot. Là où le japonais fait une différence et construit deux classes tonales, le français n'en construit qu'une, deux classes tonales pour le japonais, le français n'en construit qu'une. Là où le français construit deux classes, le japonais n'en construit qu'une. Vous voyez donc que ce ne sont pas les propriétés réelles du signal qui sont ici en jeu, mais le travail cognitif de filtrage, de construction de classes d'équivalence, de construction d'invariants cognitifs qui permettent de reconstruire le message. Deuxième exemple qui concerne le français et l'espagnol, très très rapidement. En français, vous avez des tas d'articulations de R. Depuis des R apicaux, vibrants, extrêmement avant, jusqu'à des R d'arrière. Toute la variété possible de R en français, qui est extrêmement grande, qui va de l'avant de la bouche à l'arrière de la bouche, qui donne des sons aussi différents que R, R, par exemple. C'est une seule classe d'équivalence en français. Comment est-ce que je le sais? Simplement parce que quand je vais à Paris, si je vais à Paris ou à Paris, eh bien, je vais à la même ville. Vous savez sans doute qu'en espagnol, il y a une toute petite différence sur les vibrantes apicales. Cette différence est infime, elle concerne non pas une aussi grande différence qu'entre ce R-là et ce R-là, elle concerne le nombre de battements. L'espagnol distingue deux classes, en ce qu'on appelle les battus et les roulés, tout simplement parce que perro et pero, ce n'est pas le même mot en espagnol. On voit donc qu'il y a de très grandes différences qui, pour le français, ne font pas de différence, et de très petites différences qui, pour l'espagnol, font des différences fondamentales. Cette notion de différence est une notion qu'on peut approcher uniquement du point de vue cognitif, parce qu'elle met en jeu le système de la langue, elle met en jeu nos fonctionnalités et de monitoring et de reconstruction du signal. Dernier exemple, pour ce qui concerne la segmentation, un exemple très classique, je reprends chez André Martinet. Tche. Bon, est-ce que tche c'est un son ou est-ce que tche c'est deux sons? Bon. L'analyse est extrêmement simple. En espagnol, vous avez mucho, vous avez mucho, mais vous ne pouvez pas avoir mucho. C'est impossible. Le profil même phonologique de l'espagnol exclut ce type de choix dans ce type de contexte. Il s'ensuit que che en espagnol est un choix unique du locuteur, correspond à une seule classe. En français, par contre, vous avez mache, cache, macho, avec che. Vous avez mâché, lâché, taché, avec che. Vous avez laté, tâté. Et donc, vous avez les trois possibilités. Ce qui signifie qu'on a là une opposition ternaire et pas binaire. En d'autres termes, vous avez ici non pas un son comme en espagnol, mais bien deux, le choix de celui-ci et le choix de celui-là. Donc, vous voyez que, y compris la question de la segmentation, fait l'objet d'un travail complexe. Une fois qu'on a segmenté et catégorisé et extrait cet invariant, il faut encore prendre en compte la question de la façon dont ces représentations mentales vont être structurés. L'idée extrêmement simple. L'idée, c'est que les éléments sonores dont je viens de parler, ces catégories que nous reconstruisons, ne se suivent pas dans un ordre linéaire simple, en gros comme des perles sur un collier. Elles sont très fortement structurées et architecturées dans des représentations complexes. Elles entretiennent entre elles, ces éléments entretiennent entre eux, des relations hiérarchiques, asymétriques, extrêmement fortes, qui nous permettent en fait d'organiser nos représentations linguistiques. Ce que nous percevons comme des sons successifs sont souvent en fait non successifs. On peut avoir ce qu'on appelle des anticipations articulatoires, c'est-à-dire le fait que ce que vous percevez comme le son suivant va en fait commencer avant celui qu'il suit, ou deux sons qui se suivent peuvent en fait être articulés simultanément. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir dans ces représentations cognitives et mentales des relations architecturales relativement complexes. J'en prendrai un premier exemple qui me conduira jusqu'à la fin de mon propos, qui est la structure syllabique. Qu'est-ce que c'est qu'une syllabe ? C'est d'abord une relation asymétrique. Et c'est une structure qui est universelle. Dans toutes les langues du monde, il y a des syllabes. On ne connaît pas de langue dans laquelle il n'y ait pas de syllabe. Une syllabe, c'est quoi ? C'est une relation de dépendance structurale de ce type, le sommet de syllabe, constitué d'une attaque, en général une consonne, et de ce qu'on appelle une rime. Et vous voyez immédiatement que cette attaque, dont je vais dire tout de suite comment elle va se réaliser ici, est en relation structurale avec la rime, mais cette rime comporte deux éléments, ce qu'on appelle le noyau syllabique et ce qu'on appelle la coda syllabique. Il y a ici une relation très importante entre le noyau et la coda, parce qu'elles sont dans la même structure. Mais vous voyez immédiatement qu'il y a très très peu de relations, voire pas de relations du tout, entre l'attaque de la syllabe et la coda de la syllabe. Et effectivement, dans les langues du monde, il y a extrêmement peu de relations entre les consonnes d'attaque de syllabe et ce qui termine la syllabe. Par contre, il y a une relation très forte entre le noyau et la coda, et il y a une relation très forte entre l'attaque et la structure globale qu'est la rime. Cette relation est extrêmement importante parce que ça définit ce qu'on appelle des syllabes CV, consonnes voyelles. C'est tout à fait le début de l'apprentissage. Le babillage enfantin est un babillage qui, justement, est un babillage de monitoring de cette structure, qui fait que l'enfant tente d'apprendre cette structure, et plus exactement, cette structure étant universelle, de spécifier la façon dont cette structure est paramétrée dans la langue qu'il apprend. Par exemple, en français, on peut avoir des syllabes C, V, C. On appelle les syllabes fermées. Le français admet donc des codas. L'hawaïen, par exemple, exclut des codas. En hawaïen, toutes les syllabes sont ouvertes, toutes les syllabes sont de type CV. En gros, ça signifie qu'on va avoir ici une paramétrisation de l'hawaïen qui, par rapport à ce schéma universel, va rendre nulle cette partie du schéma. À l'intérieur de l'attaque elle-même, comme à l'intérieur de la coda, il y a des relations extrêmement importantes qui se spécifient de langue à langue. Par exemple, en français, on peut avoir des groupes relativement lourds, comme dans Cadastre, où vous avez trois consonnes qui se suivent. Simplement, vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle consonne ici. Vous devez avoir des groupes de ce type, str. Si vous prenez texts en anglais, vous voyez que vous avez ici une coda qui est tout à fait exclue en français. C'est-à-dire que cet arrangement, ici, qui est possible en anglais, est exclu en français. Les relations entre ces trois consonnes sont possibles dans la structure de la coda en anglais, ne sont pas possibles dans la structure de la coda en français. Donc, il y a une paramétrisation de cette structure universelle qui se fait langue à langue. La paramétrisation du japonais est en gros celle-ci. Le japonais admet essentiellement des syllabes, ce qu'on appelle les syllabes ouvertes, des syllabes de type consonne-voyelle. Vous voyez donc que la coda n'existe pas, qu'elle est dégénérée. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un japonais va importer en japonais un mot étranger dans lequel, précisément, il y a, par exemple, un mot français-anglais, une coda complexe ? Supposons le mot « film ». Film, vous avez ici une coda. Qu'est-ce que va faire un japonais? Il va appliquer le schéma paramétrique du japonais. Le schéma paramétrique du japonais est très simple. F et I, ça marche très bien puisque c'est une structure de type CV. Il trouve ensuite une consonne. Cette consonne en japonais ne peut être qu'une attaque. Il va donc la réaliser comme une attaque. S'il la réalise comme une attaque, universellement, toute attaque doit être suivie d'un noyau. Et il va donc produire un noyau syllabique avec une syllabe par défaut, avec une voyelle par défaut, qui en japonais est plus ou moins OU. De même, il va trouver une deuxième consonne, qui en français est une coda. En japonais, c'est impossible. Il va donc la placer en attaque. Et il va réaliser film comme quelque chose comme filoumou, plus ou moins. De même, par exemple, si vous prenez sprint, les japonais ne courent pas le sprint, ils courent le spurunutu, quelque chose comme ça. Alors, j'en viens au français, je prends maintenant l'exemple du français pour illustrer cette structure. En gros, la structure du français est la suivante. On peut avoir des codas, ces codas peuvent être branchantes. Il peut donc y avoir jusqu'à 3 consonnes en attaque et 3 consonnes en coda. Simplement, il ne peut pas y avoir n'importe quelle consonne en attaque et n'importe quelle consonne en coda. En fait, ces consonnes doivent entretenir entre elles un certain nombre de relations particulières en français, qui ne sont pas celles de l'anglais, on l'a vu tout à l'heure, en anglais on peut avoir des choses comme texts, par exemple. Ces relations sont des relations qu'on appelle de sonorité, c'est-à-dire qu'en gros, la courbe doit être une courbe de sonorité ascendante. Qu'est-ce qui se passe en français lorsque vous écoutez Mstislav Rostropovitch? Qu'est-ce que vous faites avec Mstislav? Mstislav, c'est précisément une attaque de 3 consonnes, donc elle pourrait rentrer là, en français. Le seul problème, c'est que me, se, te, en français, n'a pas une courbe ascendante. Donc, un français ne peut pas réaliser une attaque branchante avec une stone. Ce que fait très bien le russe, qui, lui, n'a pas cette contrainte sur la structure interne de l'attaque. La stratégie du français va être simple. Soit il va épinthétiser, donc rajouter une voyelle pour obtenir 2 syllabes, et il obtiendra « umsti », soit, plus généralement, ce que font les présentateurs de radio, c'est qu'ils font 2 syllabes. « Ste » est une attaque possible en français, et donc on obtiendra « misti », Mstislav Rostropovitch. Alors vous pourrez dire, c'est simplement parce que « ste » est difficile à prononcer. En fait, pas du tout. Ce n'est pas une difficulté de prononciation. C'est un problème de structure interne de l'attaque syllabique. La meilleure preuve, c'est que vous pouvez prononcer très bien cette phrase. Lech Walesa a signé le texte avec un énorme stylo. Vous avez ici « mste ». Supposez que vous connaissiez un arbre qui s'appelle Sti et que cet arbre soit un arbre slave. Vous direz, il a acheté un énorme Sti slave, sans aucune difficulté. Ce qui montre que c'est pas un problème, on n'a pas ici un problème de linéarisation. C'est pas la difficulté de la succession de ces 3 sons. Le problème est un problème complètement cognitif. C'est comment construire une représentation mentale dans une seule syllabe en français, compte tenu des paramètres spécifiques de la structure syllabique du français, à partir de cette suite. Ceci est impossible en français. La seule solution est donc de construire 2 syllabes, puisque je peux avoir ce « me » en coda et avoir parfaitement en attaque en français une attaque de type « sti ». L'exemple suivant qui... ça va aller. Concerne également le français. Le français est une langue tout à fait spéciale parce que c'est une langue, comme on dit, une langue à sandhi. C'est une langue dans laquelle la forme des mots change. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu parce que vous maîtrisez ça tous les jours. La forme des mots change et elle change, vous en avez l'expérience quotidienne, quand vous faites des liaisons. Quelle est la forme de grand? Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est grande? Grand camarade, grand ami. En fait, vous avez un savoir linguistique et cognitif qui vous permet de dire que ces 2 formes sont la même. Qu'en fait, cette différence est intégrée à la même représentation mentale. L'enjeu, c'est qu'il faut donc rendre compte du fait qu'on sait qu'il y a en français des formes longues et des formes courtes qui vont varier selon le contexte suivant, celui de la liaison, qu'en gros, chaque locuteur du français connaît ce qu'on peut appeler le gabarit du mot, le nombre de places que ce mot comporte, et sait que ce gabarit va être variable selon les contextes. Il faut donc que je construise des représentations mentales de grand et grande comme la même représentation, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout le cas pour gras et gratte, qui ont la même variation d'une consonne finale, où là, il faudra que j'ai deux représentations différentes. En d'autres termes, rendre compte de la liaison ici et du fait qu'ici, j'ai deux mots différents, ça suppose de rendre compte du savoir et des compétences cognitives mises en œuvre par les locuteurs du français et donc de construire les représentations mentales qui correspondent à cela. Comment ce savoir est-il engrammé dans des représentations mentales? La première idée, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une analyse autosegmentale, c'est-à-dire une analyse dans laquelle les représentations sont structurées à partir d'un ensemble de paramètres, chacun indépendant. Et je vais notamment introduire ici quelque chose qui, pour le français, est très très important, ce que j'ai appelé tout à l'heure le gabarit du mot, ce qu'on appelle de façon un peu plus technique le squelette chronématique. En gros, c'est le savoir que vous avez tous du nombre de positions, du nombre de temps, du nombre de trous, du nombre de places, du nombre d'éléments temporels qu'a un mot en français. Et de ce point de vue, vous savez tous que grand a une place supplémentaire. C'est ça l'idée de base que je vais illustrer. À partir de cette représentation, dans laquelle je vais avoir la structure syllabique, les phonèmes en question, la structure chronématique, je vais pouvoir définir des conditions structurelles sur cette représentation. C'est ce qu'on appelle ici des conditions de liage. En gros, comment l'ensemble de ces positions vont se trouver liées les unes les autres pour donner une représentation cohérente qui va pouvoir être prononcée. Et vous voyez que j'ai introduit ici une idée qui est ce qu'on appelle les consonnes flottantes. Ces fameuses consonnes de liaison en français, celles que vous connaissez et dont vous savez qu'il n'est pas bon de les faire mal à propos, et que donc, dont vous maîtrisez l'occurrence contextuelle, eh bien, on va les analyser comme des consonnes flottantes. C'est-à-dire comment ? Comme une représentation syllabique dans laquelle ce mot comporte une consonne supplémentaire qui appartient à son gabarit, mais cette consonne n'appartient pas, n'est pas interprétée du point de vue structural. Comme vous le voyez, elle n'a pas de place dans la structure. Qu'est-ce qui se passe en liaison ? Lorsque vous avez un mot comme « ami », en français, la structure universelle de la syllabe, c'est qu'il y a toujours une attaque, même si cette attaque est vide. En gros, tous les mots du français sont de type CV, même si la consonne initiale n'est pas réalisée. Donc mentalement, le gabarit d'ami est un gabarit qui correspond à la structure syllabique universelle telle qu'elle est paramétrée par le français, et donc dans lequel l'attaque est présente. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez donc un grand ami ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous avez une place qui est ici disponible. Cette attaque va permettre d'interpréter cette position flottante en lui donnant un ancrage structural. C'est la raison pour laquelle vous allez l'entendre et la prononcer. Par contre, lorsque vous avez un grand camarade, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que l'attaque de la syllabe initiale de camarade est ici interprétée déjà lexicalement par la consonne de camarade, que donc le T de grand en question ici ne trouve aucune interprétation structurale possible, aucun liage possible dans la structure, et que donc il ne peut pas être prononcé puisqu'il ne peut pas être cognitivement intégré dans une structure cohérente. Dernier exemple, ça ira ? Oui ? Une minute, alors deux minutes. Dernier exemple, prenez deux mots qui apparemment, à nouveau pour montrer en quoi l'organisation linéaire du son n'est pas vraiment le caractère déterminant, en quoi le message est sous-déterminé par les propriétés sonores et complètement surdéterminé par l'interprétation cognitive et le travail cognitif qu'on en fait. Vous prenez « what » et « wa ». Pour tous les Français, ces mots sont différents. Je vous fais remarquer que d'un point de vue strictement phonétique, il s'agit de la même séquence. « What » et « wa » commencent exactement par la même séquence sonore. Leur comportement est très différent, parce que je ne peux pas dire des ouates et que je ne peux pas dire des oies. Je dois dire l'inverse. Très bien. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que nous le savons tous et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'erreur de performance ? Pourquoi est-ce que nous avons la compétence de cette asymétrie ? Pour une raison très très simple. Je reprends mon petit schéma syllabique. Il se trouve que la représentation de what est une représentation dans laquelle le « ou » ici est une semi-consonne, c'est-à-dire c'est une structure de type vocalique du point de vue sonore, mais qui est interprétée sous l'attaque. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie que le « s » de liaison ici n'a pas de lieu d'ancrage, d'où des watts électriques. Par contre, le « ou » de « wa » est ici, l'animal, est ici représenté sous la rime. En d'autres termes, l'attaque est vide. Puisque l'attaque est vide, le S de liaison ici trouve un point d'ancrage. Et on a bien des oies. Et vous voyez que ces deux schémas sont extrêmement différents. Et ils tentent de répondre à cette question simple. Intuitivement, vous savez qu'il y a une différence fondamentale de représentation et de monitoring entre what et oie. Et c'est finalement la thèse qui est ici défendue, à savoir que ce travail mental sur les représentations, c'est ce qui permet la communication. Et c'est parce que nous partageons les paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. D'abord parce que nous partageons comme espèce les mêmes potentialités cognitives et le même stock d'universaux linguistiques. Et parce que nous partageons comme locuteurs du français la même paramétrisation de ces universaux, que donc nous avons sensiblement des systèmes cognitifs et des systèmes de représentation à peu près équivalents, que le mystère dont je suis parti, à savoir l'action d'un cerveau sur un autre cerveau, peut avoir lieu par l'intermédiaire de la transmission d'un signal, parce qu'en définitive, la transmission du signal est relativement inerte par rapport au travail cognitif d'encodage que vous faites lorsque vous vous adressez à moi et par rapport au travail cognitif de décodage et de reconstruction des représentations que je fais lorsque je vous écoute, ce que je ne vais pas manquer de faire maintenant. Je vous remercie.
Je remercie le professeur Bernard Lax. Maintenant, nous allons passer à la traditionnelle séance de questions. Voilà, merci de vous lever et de poser votre question rapidement et simplement. Merci.
Bonjour. J'aurais aimé savoir ce qu'apporte la phonologie cognitive à l'explication des lapsus.
Ah, c'est une bonne question, je vous remercie. On peut répondre à la question de la façon suivante. Le lapsus est précisément une erreur de performance. En d'autres termes, c'est une erreur d'effectuation. Ça peut aussi être une erreur de programmation. Mais essentiellement, nous sommes dans l'ordre de l'effectuation du geste. Ce dont j'ai parlé ici, c'est ce qui, d'un certain point de vue, se situe avant l'effectuation du geste. On peut avoir des savoirs complet et avoir quelques difficultés à les mettre en pratique. En d'autres termes, on peut avoir une compétence linguistique et, dans l'effectuation de cette compétence, connaître quelques faux pas. Sur l'interprétation de ces faux pas, la phonologie cognitive a peu à dire, sans doute que la psychanalyse aurait beaucoup plus de choses à dire. Cela dit, une toute petite partie de l'analyse des lapsus et des faux pas peut être traité en termes de pilotage neuromusculaire. Mais c'est une toute petite partie de ce qu'on appelle les lapsus.
Une question là-bas, monsieur.
Je voulais poser deux questions. La première, qu'est-ce que fait l'affectivité du sujet qui prononce la phrase ? Est-ce que ça modifie, est-ce que ça brouille le contexte, la cognition, comme somme toute ? Et d'autre part, concernant un son simple, comme A, par exemple. on pourrait penser qu'il y a des limites, il y a des limites dans lesquelles ce son doit être prononcé. Autrement dit, pour un son très simple, quelles sont les limites de la compréhension de ce son ?
Tout d'abord sur l'affectivité, loin de moi l'idée de nier qu'il y ait dans la communication et dans l'échange beaucoup d'autres aspects que les aspects strictement linguistiques, et notamment les aspects affectifs, les aspects pragmatiques sont aussi des aspects qui interfèrent avec la précision du message et voire avec son contenu. Et lorsque, comme être humain, nous communiquons, nous ne mobilisons pas seulement des ressources linguistiques. Donc, je serais tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a de l'affect, notamment lorsque l'on pilote un système qui est un système qui a à voir avec l'oralité. Simplement, ce que les sciences du langage et la phonologie en particulier tentent de faire, c'est de délimiter son objet. Et dans cette délimitation, elle se centre sur un tout petit aspect qui est la valeur sémantique, au sens très très restreint de valeur sémantique. En gros, la valeur, comme on dit, assertorique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un même contenu informatif du message. Mais dans un message, il y a beaucoup d'autres choses que le contenu informatif, et là, on renverrait à des dimensions du genre de l'affectif. S'agissant des limites de la prononciation d'un son donné, elles sont extrêmement variables de langue à langue. Tout dépend du système linguistique. Lorsque vous avez un système linguistique qui, comme le français, fait des différences, par exemple, de hauteur, de fermeture, entre A et E, bien évidemment, sur cette dimension physique, vous découpez 3, 4, 5 classes différentes qui vont être fonctionnellement différentes. Si vous prenez un système comme l'arabe classique, qui ne connaît pas ce genre de différence, il va découper le même espace en uniquement 3 classes, ce qui signifie que dans la classe d'équivalence abstraite du A de l'arabe classique, se logeront tout un tas de variantes perçues comme des variantes de A, qui seront sans doute pour un français des E ou des E. Donc le problème, c'est le problème du découpage. En gros, nous parcourons l'ensemble de l'espace vocalique, tant en production qu'en réception, mais nous le découpons langue à langue selon un nombre de classes qui est défini arbitrairement par chacune des langues. Et donc ce sont les besoins de la différence significative et de l'opposition de ces classes qui vont fixer la latitude de prononciation.
Une autre question, madame ?
Oui, ça va un petit peu compléter une question qui a été posée tout à l'heure. Je pense que j'ai été très intéressée par ce que vous nous avez appris, mais effectivement, l'intonation, je voulais simplement le souligner, peut avoir un rôle très très important. Et je pensais à une pièce, je crois, de Marguerite Duras, qui est fondée sur la façon dont un des protagonistes, il s'agit de deux amis extrêmement intimes qui se connaissent depuis plus de 20 ans, l'un d'eux a dit à l'autre, lorsqu'il lui a parlé d'un de ses projets, « c'est bien ». Et toute la pièce... C'est pas Marguerite.
C'est Nathalie Sarraute.
Nathalie Sarraute. Oh, ben oui, bien sûr, Nathalie Sarraute, c'est évident. Quelle bêtise. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne peux que faire la même réponse. À savoir, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres dimensions qui sont des dimensions pragmatiques, affectives, culturelles. Je vous ferai simplement remarquer que si j'arrive devant cet auditoire et que je ne lui explique pas qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, qu'en plus je ne lui explique pas qu'il s'agit de Nathalie Sarraute, c'est-à-dire si je ne rétablis pas l'ensemble du contexte culturel et que je dis « c'est bien », ce que vous entendrez, c'est que c'est bien. Finalement, c'est bien. Donc, ces dimensions externes, d'un certain point de vue, jouent et ont une fonction très très importante. Simplement, ce que les sciences du langage tentent de faire, finalement, c'est de séparer, au moins provisoirement, ces dimensions pour pouvoir les analyser une à une, et donc de se centrer sur quelque chose qui est beaucoup plus rudimentaire et primaire, la différence entre papa et papy. C'est déjà pas mal de comprendre la différence entre papa et papy. Pour le reste, est-ce qu'on peut appliquer ce genre de technique à des choses aussi compliquées que c'est bien. Je ne sais pas. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées que ça encore avec le langage. J'avais relevé, un de mes étudiants avait relevé la phrase suivante. Si je ne vous donne pas le contexte, c'est impossible. Il s'agit donc d'un marché aux puces dans lequel il y a deux stands. Donc vous imaginez deux stands et il y a un passant qui passe entre ces deux stands qui veut visiblement acheter quelque chose dans un des stands. Et dans ce stand, le vendeur n'est pas là. Le stand est vide. Et donc il s'adresse au stand de gauche et il dit la phrase suivante, il dit « Pardon monsieur, ici c'est à côté. » Et le vendeur lui répond « Non, il est parti déjeuner. » Bien. Alors, je ne sais pas traiter ça.
Une question de monsieur.
Une question. Un étranger qui apprend le français apprend des milliers de mots. Il réussit finalement. Mais pourquoi il n'arrive pas à apprendre les 20 ou 30 phonèmes ? Autrement dit, pourquoi l'étranger garde-t-il son accent ?
Pas toujours.
Mais quand il apprend la langue à 20 ans, par exemple.
Exactement. Bah, précisément parce que là, on a affaire à ce que j'appelais tout à l'heure un monitoring, c'est-à-dire à des cibles phonétiques et à une organisation à la fois cognitive avec une descente musculaire qui est d'extrêmement bas niveau. Et lorsque vous avez, dans votre prime enfance, appris à maîtriser ces fonctionnalités-là, qui sont des fonctionnalités de très, 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 très bas niveau, il est très difficile d'en changer. D'un certain point de vue, il y a d'autres choses de très bas niveau que les étrangers, que nous sommes tous appelés à être, n'arrivent pas à maîtriser. Il y a des choses, par exemple, comme la marche, des postures corporelles, des attitudes corporelles, des pilotages neuromusculaires qui sont souvent variables de culture à culture, et celles-ci aussi. On a beaucoup de mal à les apprendre, sauf un certain nombre d'individus qui ont une capacité particulière à maintenir ces capacités d'apprentissage-là. Mais cet apprentissage phonématique est d'abord de très très bas niveau, d'une part, et d'autre part, il est premier, il est extrêmement précoce. Donc ce sont des apprentissages tout à fait au moment du babillage et de l'apprentissage des structures syllabiques et des cibles. Et une fois que ces apprentissages-là sont faits, en fait, on a désappris l'ensemble des autres possibilités. On a, d'un certain point de vue, sclérosé le système. Et il est extrêmement difficile de lui redonner de la souplesse, ce qui est nécessaire si l'on veut tout d'un coup maîtriser un autre espace vocalique.
Une question de monsieur.
Oui, excusez-moi, malgré les restrictions que vous avez indiquées sur l'objet de votre science et de votre étude, je suis quand même un petit peu effrayé, enfin, j'avoue, par les mots que j'ai entendus, notamment de désigner la communication humaine comme d'un échange de cerveau à cerveau. Enfin, quand je parle, ce n'est pas mon cerveau qui parle, c'est moi qui parle. Quand je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas à votre cerveau, je m'adresse à vous. Ben voilà, pourquoi la linguistique moderne ne s'attache qu'à l'aspect phénoménal du langage ?
Alors, je ne sais pas si c'est l'aspect phénoménal. Et peut-être que je dois préciser ce que j'entends ici par cerveau. Cette idée n'est pas une idée... Enfin, c'est pas une idée proprement linguistique, c'est une idée qui vient, à la fois des sciences cognitives et de la théorie de l'information, qui pose en gros l'idée suivante, c'est que ce qui se passe au niveau de l'encéphale, c'est un changement d'état. En fait, lorsque nous pensons quelque chose, lorsque nous avons une intention quelconque, lorsque nous recevons une information de l'extérieur, notre état cognitif change. S'il était stable, s'il ne se passe rien, on a une stabilité cognitive. Notre état mental change continuellement. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut que l'état global du système soit modifié. L'information, on peut la définir comme une modification de l'état du système, comme un stress du système. On a un système en équilibre, et ce système est stressé par quelque chose de nouveau, et il va se rééquilibrer. Cela dit, donc, c'est ceci pour vous répondre sur de cerveau à cerveau. Pourquoi de cerveau à cerveau ? Parce que, en fait, tout ce que nous le percevons par notre système cognitif. Mais, là où je suis d'accord avec vous, ce système cognitif, ce n'est pas simplement l'encéphale, ce n'est pas simplement ce qui est dans la boîte crânienne. D'un certain point de vue, le corps fait partie aussi du cerveau. Par exemple, l'œil, qui apparemment n'appartient pas au cerveau, un certain nombre de mes collègues cognitivistes qui s'intéressent à la perception définissent l'œil comme une prolongation du cerveau. La main, le corps, le geste, d'un certain point de vue, est également entièrement piloté, non seulement piloté, est une prolongation du cerveau. Donc, en fait, c'est bien l'ensemble de la personne humaine. Mais cette personne humaine, elle est, je la saisis, si vous voulez, par le système neurophysiologique qui, d'un certain point de vue, la contrôle et la perçoit. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que, en fait, la communication de deux individus, elle a pour fonction de faire changer l'état informationnel de celui avec qui je communique. Faire changer son état informationnel, c'est faire changer l'état de son encéphale. C'est ça que je veux dire. Et de ce point de vue, il s'agit bien de faire communiquer deux cerveaux en question. Les corps ne communiquent pas beaucoup plus non plus. Ils communiquent par signe. D'accord ? Donc il y a ce travail d'interprétation qui est un travail cognitif interne qui fait que la communication est possible.
Une question, attends, il y a eu un monsieur juste avant. Mais...
Ma question est un peu l'inverse de la précédente. Plutôt que de vous reprocher de trop loger toutes ces capacités dans le corps, j'ai eu l'impression, moi, que vous les rendiez un peu trop réflexives, parce que vous utilisez souvent le terme de savoir, de compétence. Est-ce qu'on peut appeler savoir un savoir qui est tellement enfoui qu'on ne sait même pas qu'on l'a ? Un savoir qui, souvent, vous l'avez dit à un moment, n'a même pas l'occasion des erreurs pour s'apercevoir qu'il existe, pour qu'on puisse s'apercevoir qu'il existe. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler tout simplement de capacité, d'aptitude, de quelque chose qui n'est pas un savoir, qui ne serait pas une compétence ? Il me semblait que ces termes étaient finalement trop forts, trop réflexifs, au fond.
Alors, il est clair que ce savoir n'est pas explicite. Tout à fait d'accord avec vous, c'est un savoir qui n'est absolument pas explicite, qui ne peut s'expliciter que par quelques tests psycholinguistiques qu'on appelle des tests de grammaticalité, ou sur lesquels on interroge les sujets pour savoir, par exemple, si tel mot a le profil d'un mot français ou si on peut dire tel ou tel type de phrase. Il s'agit donc bien de quelque chose qui est complètement implicite, mais qui s'organise comme une compétence, c'est-à-dire comme un ensemble de fonctionnalités internes, très peu réflexives, je vous l'accorde, qui sont productives, c'est ça le point important. C'est-à-dire que la langue n'est pas quelque chose qui est défini, fixé comme une liste. Je ne répète pas les choses, je produis du nouveau à chaque moment. Ce qui est tout à fait mystérieux dans la langue, et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par l'idée de compétence, c'est que nous sommes capables de produire et de comprendre des phrases au sens propre du terme inouï, c'est-à-dire qui n'ont jamais jusqu'alors été ouïes par quiconque. Et donc, ce ne sont pas ces phrases qui sont stockées, ce ne sont pas ces mots en tant que tels qui sont stockés, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en amont et qu'effectivement on définit comme une compétence très très générale, très implicite, qui permet de produire ces performances-là. Bon, maintenant, quelle est la forme exacte de ce savoir, entre guillemets ? Les linguistes, aujourd'hui, n'emploient pas tellement le terme de savoir, mais le terme de compétence. Pour moi, je fais une équivalence entre compétence et savoir. Bon, compétence, c'est un terme un peu plus technique. Quelle est la forme même de cette compétence ? Est-ce que, notamment, elle est stockée, justement, comme des représentations symboliques réelles ou comme des architectures neuronales ? Là, le débat est extrêmement ouvert et les deux positions sont actuellement défendues par un certain nombre de linguistes qui défendent que nous stockons comme base de notre compétence linguistique des représentations en tant que telles. Donc il y a un travail proprement symbolique qui est fait, et d'autres linguistes, moi je pense plutôt de ce côté-là, qui pensent que ce que nous stockons en fait sont des architectures neuronales et des connexions neuronales, des réseaux de neurones assez complexes qui, en fait, reproduisent à chaque fois ces représentations et ce monitoring dont j'ai parlé.
Pour finir, nous allons prendre deux questions, madame et monsieur, ensuite.
Voilà, monsieur, il me semble, dans tout ce que vous avez dit, était sous-tendue la théorie de Lacan. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on dit et on ne sait pas ce que l'on entend. Le sujet divisé. Et je crois que vous l'avez dit tout le temps, les personnes en ont parlé aussi, hein, c'est inconscient qui passe dans le langage que l'on ne comprend pas et que les psychanalystes ne comprennent pas toujours non plus, et des fois jamais.
Peut-être.
Nous allons prendre une dernière question avec monsieur.
Oui, je voudrais savoir comment il se fait que, qu'en français, par exemple, il y a une perte des catégorisations. Je veux dire que maintenant, la plupart des gens ne font pas de différence à l'émission comme à la réception entre un beau brun et un joli brun de fille, ou bien entre la pâte que le pâtissier fait lever et la pâte que le chien lève. Et je pense que la plupart des gens diront pâte à papier et non pas pâte à papier. Et donc ils ne peuvent prononcer comme convient, ni ils ne perçoivent la différence quand quelqu'un parle. Alors que moi j'ai encore la sensation de le faire, mais je sens que ça se perd. Il faut savoir pourquoi.
Savoir pourquoi, j'aurais du mal à répondre. Donner quelques indications. L'idée est très simple, c'est que les systèmes linguistiques ont deux caractéristiques. La première, c'est d'être totalement stable et immuable, puisque c'est la condition même de la communication et de l'échange entre nous. Il faut que nous accordions sur le même type de code, que nous partagions les mêmes fonctionnalités mentales, sinon nous ne pouvons pas communiquer. Ça suppose, un arbitraire et deux, une stabilisation. Et paradoxalement, les systèmes linguistiques en même temps sont extrêmement mobiles et changent au cours du temps de façon très très importante. Le français, comme d'autres langues, en l'espace d'une ou deux générations, effectivement, un certain nombre de différences et d'oppositions qui étaient fonctionnelles ne le sont plus. L'opposition de longueur, la différence entre une reine et un renne, par exemple, long bref, aujourd'hui est sans doute complètement neutralisée. La différence de « et « est », beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans la nouvelle génération, boivent du lait et non pas du lait. Bien, pourquoi ? Alors là, on peut faire intervenir la dynamique interne des systèmes, c'est-à-dire une sorte de force interne à la structure même qui fait qu'un certain nombre de choses qui sont peu fonctionnelles, peu rentables, peu centrales, s'amenuisent et que le système se recompose pour maximiser finalement les dimensions les plus pertinentes. C'est une des réponses possibles. L'autre réponse possible, c'est que ces systèmes sont en fait toujours des systèmes extrêmement déséquilibrés justement parce que ce sont des systèmes abstraits. Et en tant que système abstrait, lorsque nous parlons, nous sommes toujours dans l'écart. Alors, ce n'est pas du tout pour reprendre sur la psychanalyse, dans l'écart par rapport à la cible. Une performance, c'est quelque chose qui n'est jamais de l'ordre de la perfection. Donc on est toujours dans l'écart par rapport à la cible, on est toujours dans une parler une langue, finalement, c'est avoir dans la tête un certain profil, un certain idéal de cette langue, et s'employer autant que faire se peut à atteindre cette cible, tout en sachant qu'on n'atteindra jamais cet idéal, ce profil idéal de la langue qu'on a dans la tête. On a une idée très, 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 très générale de ce que c'est cette langue. Et donc on est toujours dans l'écart, on est toujours dans le faux pas, on est toujours dans le petit écart par rapport à cette cible-là, simplement on est très nombreux à faire ces écarts-là. Et donc un des moteurs du changement, c'est aussi le fait que nous parlions et que lorsque nous parlons, eh bien, nous modifions par nos écarts répétés et successifs ces cibles et nous les modifions pour l'ensemble des locuteurs du français. Aujourd'hui, on voit apparaître des choses qui étaient tout à fait impossibles en français, s'agissant par exemple de la liaison. Vous avez entendu, comme moi, tous les hommes politiques parler des pays européens, des États-Unis d'Amérique, ce genre de choses, ou parler du coût et du but depuis que une certaine élection s'est faite le 10 mai. Bon. Toute chose qui, dans la génération précédente, n'était absolument pas, n'appartenait pas, ou très très peu, au système du français. Il se trouve que pour des raisons sans doute liées à la scansion, au rythme, et au fait qu'on essaye de plus en plus de parler comme on écrit, sans doute à cause de nos chers instituteurs, on fait par exemple monter les consonnes de liaison, et donc on en fait plutôt plus que pas assez, et donc on les fait monter, et donc ça modifie progressivement le système de la liaison jusqu'à en faire une nouvelle norme qui s'impose à vous comme à moi, et vous comme moi, je pense, je dis le 10 août, mais pas le 10 août. Le 10 août. Je ne sais même plus.
Merci.